le dollar a repris sa progression puisque l'euro perd 0,90% à 1,1446. La monnaie unique reprend quand même 0,13% à 135,85 yens. Voilà, je vous rappelle que le CAC 40, lui, est en petite hausse de 0,21% maintenant à 3115 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
On termine avec la combinaison gagnante du Quintet Plus, 18, 13, 2, 8 et 16, 18, 13, 2, 8 et 16. 14h03, vous écoutez France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui de Rouget de Lille à Serge Gainsbourg, une histoire de la Marseillaise.
L'hymne national, connu sous le nom de Marseillaise, est le Te Deum de la République. Celui-là est le plus digne de frapper les oreilles du français libre. Joseph Servent, ministre de la guerre en 1792.
D'histoire. C'est le plus international des hymnes nationaux. Depuis plus de deux siècles, c'est au son de la Marseillaise que se sont faites presque toutes les révolutions du monde. Chanté en Amérique latine par les soldats de Bolivar sur les barricades de 1848 dans toute l'Europe et à Saint-Pétersbourg pendant la Révolution russe, on a même entendu la Marseillaise en Chine pendant la Longue Marche, à Prague pendant la Révolution de Velours et sur la place Tiananmen en 1989. Mais quand un obscur officier du génie en composa les partitions à Strasbourg en 1792, il ignorait bien sûr le destin de ce chant de guerre adopté par les Marseillais qui ont donné leur nom à l'hymne national le plus connu du monde.
Oh, dis, ferme pas la porte qu'on entende un peu ce qu'ils disent. Oui, qui est-ce qui chante là?
C'est Mireur de Montpellier.
Et il chante quoi?
Je sais pas.
Avance, avance, avance.
Cette chanson de Mireur, d'où elle vient? Il l'a entendu chanter par une chorale d'ouvriers à Montpellier. Eux-mêmes l'appelaient d'un colporteur juif qu'il avait entendu à Strasbourg. On appelle ça le chant de guerre de l'armée du Rhin.
Mais qui est-ce qui l'a fait? Les soldats de l'armée du Rhin ou le colporteur juif?
Non, c'est un nommé des îles ou de l'île, je crois. Enfin, c'est un officier du génie.
Et d'où il est, celui-là?
Ah, je ne le connais pas, mon collègue.
Mais en tout cas, moi, ce chant m'a bouleversé, tu vois. C'est comme l'écho de mes propres pensées.
Oh, je ne sais pas ce que vous y trouvez là-dedans. Pour moi, c'est un engouement passager, et dans 15 jours, tout le monde l'aura oublié.
Frédéric Dufour, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'écrire aux éditions du Félin votre premier livre, un petit livre de poche qui rappelle brièvement l'histoire de la Marseillaise, l'hymne national des Français depuis la Révolution. Est-ce à dire qu'avant la Révolution, il n'y avait pas d'hymne national en France?
Si, il y avait des hymnes nationaux. C'était surtout des chants liturgiques, des motets, comme par exemple Domine Salvum Fac Regem, oui. Que l'on a chanté lors de l'embarquement de Saint-Louis pour la croisade. Ce sont des chants liturgiques essentiellement.
Vous en citez même un, d'ailleurs, de Lully, qui est « Dieu protège le roi ». Et curieusement, ce sont les Anglais qui nous l'ont pris ou qui l'ont pris à Lully pour en faire leur hymne national.
Oui, c'est une histoire.
« God save the king », ça vient de Lully.
C'est une histoire assez curieuse. Les Allemands disent que ça vient d'eux. Mais en fait, on a une preuve tangible. C'est une horloge à Versailles qui entonne, dont le carillon est le « God save the queen », le « Dieu sauve le roi », en fait, que Madame de Maintenon ait fait écrire et composer en l'honneur de Louis XIV.
Alors, bon, la Marseillaise, elle date, c'est un chant de la Révolution. Il n'est pas né tout de suite, hein. Il est né en 1792 à Strasbourg. C'est Rouget de Lille, dit-on, qui l'a... Enfin, quand je dis dit-on, c'est parce qu'on a contesté, hein, oui, la paternité de la Marseillaise. On a dit que c'était pas Rouget de Lille. On parle de Pleyel. On parle même, je crois, du fils de Jean-Sébastien Bach.
Oui, on parle aussi d'un auteur inconnu allemand, quoi, inconnu en France, Holtz Medem. On parle aussi de Mozart, puisque il y a quelques notes de Mozart qui ressemblent, qui rappellent la Marseillaise. Mais en fait, bon, Un faisceau de preuves montre bien que c'est aux horaires Rouget de Lille.
Avec une date bien précise, hein, le 24 avril 1792, je crois que c'est à la demande du maire de Lille, le pauvre d'ailleurs qui a été guillotiné plus tard, un an plus tard.
De Strasbourg.
De Strasbourg, donc qui a été guillotiné plus tard, hein, le baron de Dietrich, qui a demandé donc à Rouget de Lille de composer un chant pour l'armée du Rhin. Le titre initial de la Marseillaise, il est très long, c'est « Chant de guerre pour l'armée du Rhin » dédié au maréchal Luckner.
Exactement. Alors, les circonstances étaient très tendues. Hein. Strasbourg était assiégé par les Prussiens, on avait faim. Et lors d'un dîner où il n'y avait pas grand-chose à manger, le jeune lieutenant Rouget de Lille était là. Dietrich, avec sa famille, se trouvait là. Et donc, sachant que Dietrich taquinait un petit peu la muse, Dietrich lui a dit « Mais mon jeune officier, ça serait bien que vous pouviez, si vous pouviez nous concocter un petit chant de guerre. » Et enthousiaste, il l'a composé durant la nuit.
Et puis alors ça marche, ce n'est qu'un des chants de la Révolution. Il y a eu le Saïra, la Carmagnole avant la Marseillaise. La Marseillaise arrive, d'abord elle ne s'appelle pas la Marseillaise, elle s'appelle la Marseillaise quand elle arrive à Marseille, et même un peu plus tard. Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à Marseille? Comment?
Il y a eu une représentation publique de la Marseillaise sur la place, sur le Champ de Mars à Strasbourg, le 28 avril 1792. Et cette représentation a fait un tel effet que le texte a été reproduit et colporté. Et un colporteur donc l'a ramené jusqu'à Montpellier. Là-dessus, des patriotes montpelliérains se rendant à Marseille pour une réunion, un banquet républicain. À amener le chant, on parlait de politique et on chantait à cette époque dans les banquets républicains, et a fait entonner ce chant, qui a failli s'appeler aussi la Montpelliéraine d'ailleurs, à Marseille. Et là-dessus, donc le mois suivant, en juin, quand les patriotes marseillais sont partis en volontaire à Paris, eh bien ils ont chanté ce chant, et les Parisiens l'ont nommé la Marseillaise, quand ils ont entendu ce chant chanté par les Marseillais aux portes de Paris.
Par les Marseillais, donc, qui venaient effectivement pendant l'été 1792, quand l'Assemblée nationale proclamait la patrie en danger.
Je propose que l'Assemblée décrète la patrie en danger. Aux armes, citoyens, aux armes, hommes libres, défendons notre liberté.
Aux armes.
Oui.
Et tu sifflotes, tu tunes.
Le château aussi.
Écoute. Hein.
Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.
T'as appris ça où?
À Strasbourg.
Strasbourg?
À Charpentier qui chantait, crie pour qu'on joie.
C'était un extrait de la Révolution française de Robert Henricot, un arrivé à Paris des volontaires marseillais, dont le chant de guerre devient la Marseillaise. De quoi c'est le choix, c'est les Parisiens qui l'ont appelé comme ça.
C'est les Parisiens qui l'ont appelé comme ça. Il faut dire que les Parisiens des faubourgs ont été un peu terrorisés de voir les Marseillais arriver, chantant ce chant, un chant de guerre donc, et ils l'ont appelé du nom des chanteurs.
Bah, terrorisés aussi, parce qu'il faut rappeler que juste après leur arrivée à Paris, et avant d'aller sur le front, Frédéric Dufour, les Marseillais vont participer essentiellement à la prise des Tuileries, la chute de la monarchie le 10 août 1792. Donc c'est un chant révolutionnaire qui ne devient chant national que 3 ans plus tard, en 1795.
3 ans plus tard, en effet. Bon, rapidement quand même, il a été voté une sélection de chants par l'Assemblée nationale, dont faisait partie la Marseillaise. Il y avait aussi un chant de Voltaire qui s'appelait « Le cœur de la liberté ». Et donc il a fait partie d'une sélection avant d'être pris comme hymne national beaucoup plus tard.
Et pourquoi la Marseillaise et pas un autre?
Mais parce que je crois que c'était un chant qui était porté par le peuple. Ouais. Le pouvoir a essayé d'éviter d'avoir la Marseillaise. On le sent bien quand il y a eu toute une campagne de presse montrant que la Marseillaise n'avait pas été écrite par Roger de Lille, mais par un Prussien, donc un ennemi, etc. Donc on a essayé, durant tout le cours du 19e siècle, c'était un chant interdit, au 19e siècle, on a essayé de de ne pas faire passer la Marseillaise, mais fatalement, au bout d'un moment, il a fallu répondre à la volonté du peuple.
Oui, il est tellement associé à la Révolution que
c'est un
même Bonaparte, enfin Napoléon, devenu oui. Napoléon, s'en méfie. Elle est, je ne sais pas si elle est interdite, elle est vraiment interdite sous la Restauration. Alors là, vous racontez qu'on a pensé que les rois de France, Louis XVIII, Charles X, ont pensé à un nouvel hymne national. Alors, il y a un vive Henri IV, puis il y en a un dont le titre est extraordinaire et auquel on a échappé. Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille? Ça a failli être l'hymne national des Français.
C'est vrai, mais toujours en secret, on chantait des chants de liberté. Il y avait des chants officiels et les chants officieux.
Alors, il y avait donc, la Marseillaise continue à être fredonnée au moins par les républicains, puis elle apparaît, réapparaît en 1830 avec une nouvelle version, peut-être la plus belle, la Marseillaise de Berlioz, dont on écoute la fin, le sixième et dernier couplet, beaucoup moins connu que le premier.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la Marseillaise.
Et c'était la Marseillaise de Berlioz, hein, très belle, très très émouvante. Qu'est-ce qui fait, Frédéric Dufour, que peut-être de tous les hymnes nationaux, c'est le plus émouvant? Est-ce que ce sont les paroles?
Oui, les paroles, la musique évidemment aussi. Alors c'est peut-être même le plus émouvant pour les étrangers, beaucoup plus que pour les Français. C'est un chant révolutionnaire pour beaucoup de pays. Tous les anciens pays de l'Est, les pays communistes l'ont chanté comme chant révolutionnaire. Les républicains d'Amérique latine l'ont chanté jusqu'à Salvador Allende.
Vous l'avez même entendu en Chine, je crois.
Oui, oui. Alors justement, il m'est arrivé quelque chose d'assez curieux. Dans un dortoir en Chine où je dormais, j'étais le seul blanc et on m'a demandé d'où je venais. Je n'arrivais pas à le dire réellement en chinois parce que les accents changeaient. Et donc j'ai entonné l'air de la Marseillaise et les cinq Chinois qui étaient devant moi l'ont chanté en français et j'étais très surpris. J'ai réussi à comprendre qu'il avait appris à l'école car tous les Chinois l'apprenaient à l'époque, c'était il y a 10 ans, à l'époque, ils l'apprenaient à l'école et en français.
C'est vrai que les paroles sont très intemporelles. Il y a juste dans le cinquième couplet une référence à un général dont tout le monde a oublié le nom, qui était Bouillet, qui était un royaliste. Mais à part ça, on parle de liberté, on parle de patrie, de nation. Ça s'adresse à tout le monde, en fait.
Oui, on parle aussi d'épargner ces soldats qui s'arment à regret contre nous. Ce n'est pas le chant cruel que l'on croit être. L'image du sang n'est pas celle que l'on doit comprendre. C'est pas celle du 18e siècle. Le sang impur n'est pas... On le comprenait au 18e siècle complètement différemment. C'est plutôt la fertilité qu'autre chose.
Alors cela dit, elle était contestée au 19e parce que c'était l'hymne de la Révolution, d'où les passions justement qu'elle suscitait à l'époque, au 19e siècle, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, donc la Marseillaise est l'hymne emblématique de la Révolution, pour le meilleur et pour le pire. Alors pour le meilleur, c'est elle qui galvanise les soldats de l'an 2. La Marseillaise a donné 10 000 défenseurs à la patrie, déclare Carnot. En ce qui fait frémir le compositeur Grétry, lui plus porté sur les opéras comiques. Votre Marseillaise, dit-il, c'est de la musique à coups de canon. Mais elle est aussi l'emblème de tous les excès de cette révolution. En 1847, Lamartine, notre poète, racontera l'histoire de la Marseillaise. Comment donc Rouget de Lisle la chanta pour la première fois le 24 avril 1792 au château du baron de Dietrich à Strasbourg. À la première strophe, écrit Lamartine, les visages pâlirent. À la seconde, les larmes coulèrent. Aux dernières, le délire de l'enthousiasme éclata. Dietrich, sa femme, le jeune officier se jetèrent en pleurant dans les bras les uns les autres. L'hymne de la patrie était trouvé. Mais Lamartine ajoute, hélas, cet hymne devait être aussi celui de la terreur. L'infortuné Dietrich marcha peu de mois après à l'échafaud, au son justement de ses notes. Alors, au cours du XIXe siècle, dans la continuité de la Révolution, la Marseillaise est le chant de ralliement des Républicains. « Oh, soldats de l'an II !» s'exclame Victor Hugo. Ivre, il savourait tous les bruits héroïques, le fer heurtant le fer, la Marseillaise ailée et volant dans les balles. Ou encore dans Les Misérables, Hugo montre bien la force internationale de cet hymne chanté par le peuple de Paris. Tant qu'il n'a pour refrain que la Carmagnole, il ne renverse que Louis XVI. Faites-lui chanter la Marseillaise, il délivrera le monde. En Guy de Maupassant, un peu plus tard, lui, dans sa nouvelle Boule de Suif, montre bien la force provocatrice que peut avoir la Marseillaise parfois. Alors l'action, ça se passe dans une diligence où s'entassent pêle-mêle des bourgeois, des bonnes sœurs et un certain Cornudet, républicain assez facétieux. Cornudet sourit comme un homme qui vient de trouver une bonne farce et se mit à siffloter la Marseillaise. Toutes les figures se rembrunirent. Le chant populaire, assurément, ne plaisait point à ses voisins. Ils devinrent nerveux, agacés, et avaient l'air prêts à hurler comme des chiens qui entendent un ordre de barbarie. Il s'en aperçut et ne s'arrêta plus. Ah, mais la Marseillaise va s'embourgeoiser et faire des déçus, par exemple pendant la Commune. Voilà ce que répond l'insurgé, le héros de Jules Vallès, quand on lui parle de ce chant. « Elle me fait horreur, votre Marseillaise de maintenant. Elle est devenue un cantique d'État. Elle n'entraîne point des volontaires. Elle mène des troupeaux. C'est le tintement de la cloche au cou des bestiaux. »
Un commentaire sur ces textes, Frédéric Dufour. On voit bien qu'à la fin du 19e, la Marseillaise, elle n'attire plus, elle n'exalte plus autant les passions que...
Pas tant que ça. Dans Boule de Suif, par exemple, cette scène de la diligence, je crois que c'est, si je me souviens bien, donc quand les Prussiens arrêtent une diligence, quand Paris est assiégé, on est à la fin du Troisième Empire, et la Marseillaise est un chant interdit, et le bon bourgeois, on a peur, quand on chante la Marseillaise à côté de lui, il a peur un petit peu de la police politique aussi. Donc c'est un chant qui a une valeur... forte.
Oui, mais il y a aussi, alors il y a la grande concurrente de la Marseillaise qui apparaît en 1888, je crois, toujours écrite par un Français, d'ailleurs Potier, c'est l'International. Alors on dit la Marseillaise, c'est peut-être un hymne bourgeois, le chant des ouvriers, c'est l'International. D'ailleurs vous citez, il y a aussi la Première Guerre mondiale, vous citez Aragon, on croirait lire Vallès quelques années plus tard, Aragon qui écrit 4 ans de Marseillaise, il parle juste après la guerre, 4 ans de Marseillaise avec les pieds dans la merde et la gueule en sang, je saluerai ici l'International. Internationale contre la Marseillaise.
Oui, c'est vrai. Mais par la suite, à la Seconde Guerre mondiale, la Marseillaise est réhabilitée. Elle récupère sa valeur subversive. Un ouvrier parisien a été fusillé par les Allemands parce qu'il chantait la Marseillaise dans la rue. Quoi. Il récupère et Aragon revient sur ses paroles.
C'est peut-être parce qu'entre-temps, justement, il y a eu le Front populaire, Frédéric Dufour, et puis le Parti communiste qui, par la voix de Jacques Duclos, réhabilitait la Marseillaise le 14 juillet 1936.
En ce jour de 14 juillet, de voir s'exprimer magnifiquement la véritable réconciliation française dont notre parti communiste proclamait la nécessité voici un an aujourd'hui même. L'international a désormais retrouvé dans les cortèges populaires sa sœur aînée, la Marseillaise, et le Parti communiste est fier d'avoir pris l'initiative de célébrer la mémoire de Rouge de Lille, immortel auteur du chant immortel des soldats de l'an II.
C'était Jacques Duclos en 1936. À ce moment-là, Frédéric Dufour, la Marseillaise, fait l'unanimité pratiquement.
Tout à fait.
Et alors, à l'étranger aussi, vous le disiez, vous citez d'ailleurs un nombre incalculable de fois où elle est à des grands moments de l'histoire, pendant de grandes révolutions, où on chante la Marseillaise de préférence à l'international. Par exemple, l'arrivée de Lénine à Pétrograd en 1917.
Oui, alors l'arrivée de Lénine en 1917, mais bien avant, dès 1792, les Prussiens se sont emparés de la Marseillaise. Si bien qu'on a eu cette confusion sur la paternité. Et ils s'en sont emparés car les Prussiens ont vu, une partie des Prussiens ont vu l'armée française comme une armée de libération, tout comme les Polonais, une partie des Scandinaves et certains Russes. En Russie, en effet, la Marseillaise s'apprenait en français, parce que c'était la langue de l'élite, et donc s'apprenait en français, on la chantait, les libéraux chantaient la Marseillaise, et Lénine, donc, la chantait en 17. Oui.
Au moment où en France, d'ailleurs, on en oublie un peu les paroles, on ne chante plus que le premier couplet, on oublie les autres, et puis alors, il y a aussi le fait qu'on en conteste, vous l'avez dit, le contenu, hein, le sang impur qui est accusé d'être raciste, et puis alors il y a des paroles aussi très contestées, que celle de Gainsbourg en 1980, lorsqu'il met sur sa Marseillaise des paroles qui provoquent un véritable scandale. Serge Gainsbourg dans une salle déchaînée le 5 janvier 1980.
Bien. Je voudrais vous dire qu'un groupe d'extrême droite a fait annuler ce concert. Je suis un insoumis. Et qui est redonné à la Marseillaise son sens initial. Et je vous demanderai de la chanter avec moi. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
L'étendard sanglant des bruits.
Ça, etc.
En fait, Frédéric Dufour, ce ne sont pas tellement longtemps les paroles de la Marseillaise que Gainsbourg a changé, c'est le rythme. Ça a fait scandale à l'époque.
Oui, c'est le rythme, et puis on lui a reproché une chose injuste, on lui disait, mais vous dites aux armes, etc., vous ne voulez pas dire le refrain complètement, mais en fait, Gainsbourg, qui a acheté un peu plus tard le manuscrit, hein, 135 000 francs à l'époque, il y tenait, ce manuscrit, dans le manuscrit officiel, le manuscrit, le premier manuscrit, Rouget de Lisle a écrit aux armes, etc., ne voulant pas répéter non plus, évidemment, la mise dans la chanson.
Et ça, il le savait d'autant plus que vous le dites, Gainsbourg a acheté la partition originale de Rouget de Lisle.
Voilà. Ouais. Et il en était passionné parce que, pour lui, c'était la valeur de la République qui défend les minorités. Il faut rappeler que Gainsbourg, juif, ses parents ont été évidemment menacés, déportés par les nazis. Et c'était le seul moment de l'histoire de France où la Marseillaise n'était pas chantée, où la France n'était plus une république mais un État. Et donc Gainsbourg était très républicain, foncièrement républicain, et la République était pour lui défenseur, c'était la défense des minorités.
Alors il n'y a pas que la Marseillaise de Gainsbourg qui a été contestée, la version de Gainsbourg. Il y a aussi Valéry Giscard d'Estaing qui a voulu lui donner un rythme lent également, je crois, après son élection en 1974. Ou encore, il y a celle qui a été sifflée, on s'en souvient, il n'y a pas si longtemps au Stade de France, à l'occasion du match Bastia-Lorient en 2002, en présence de Jacques Chirac, qui s'est mis en colère.
C'est inadmissible et inacceptable. Je ne tolérerai pas et je n'accepterai pas que soit portée atteinte aux valeurs essentielles de la République et à ceux qui les expriment. J'ai donc retardé le début du match et demandé au président de la Fédération Française de Football de présenter immédiatement et publiquement dans l'enceinte les excuses de la Fédération à la France qui est humiliée par un geste de cette nature avant que le match ne recommence.
La Fédération Française de Football présente ses excuses à la France par son insulté la Marseillaise.
C'était en 2002, hein, on se souvient, ça avait fait un véritable scandale, Frédéric Dufour.
Oui, en fait, la Marseillaise a été sifflée par une méconnaissance, hein, vraisemblablement. Edmond Charleroi avait écrit un article à la suite de cela, où elle disait que les enfants ou les jeunes qui étaient là pensaient que c'était tout simplement une chanson de l'OM, hein, l'équipe de football de Marseille, et c'est par pure ignorance. Et d'ailleurs, pour suppléer à ces carences, à l'époque, le ministre de l'Éducation nationale, Jacques Lang, a d'ailleurs édité un petit livre qu'il a offert à tous les collèges de France et les lycées, de manière à ce que l'hymne soit un peu plus plus connu, en tout cas musicalement. C'est orienté, c'est un livre orienté sur la musique.
Mais c'est grave ce que vous dites, enfin, si on en croit ce que vous citez, parce que ça veut dire quoi? Que la Marseillaise, au fond, n'est plus connue, n'est plus apprise dans les écoles.
Oui, alors pourtant, une circulaire à l'époque du ministère de M. Chevènement a été émise, hein, notifiant qu'il est, dans l'éducation nationale, nécessaire de connaître l'hymne national. Bon, cela dit,
ça
n'a pas eu un grand succès.
On l'apprend plus du tout dans les écoles.
On recommence à l'apprendre. Je suis moi-même invité dans les collèges, souvent pour en parler.
Qu'est-ce qui vous a amené, vous, Frédéric Dufour, c'est votre premier livre, je le rappelle, à écrire justement un livre sur la Marseillaise?
Alors, une année de, bon, le fait que j'ai beaucoup voyagé, je suis auteur d'une thèse sur le voyage, et j'ai beaucoup voyagé, et donc dans le voyage, en tant que Français, on me chantait souvent la Marseillaise, ou on me demandait de la chanter en français, et ensuite, étant devenu libraire, un client américain est venu un jour me voir en disant, ah, je suis très content, j'ai la nationalité française, aujourd'hui, je suis vraiment heureux, je vais pouvoir chanter la Marseillaise, j'adore cette chanson. Et il a ouvert la porte du magasin, il a chanté la Marseillaise à tue-tête dans la rue, il était enchanté, et je me suis dit que ce chant avait forcément une autre valeur si un Américain l'a chanté.
Est-ce que vous pensez qu'on la chantera encore pendant longtemps, Frédéric Dufour?
Elle
a deux siècles, hein, maintenant.
Je pense que la valeur de la Marseillaise, si elle était peut-être un petit peu oubliée en France, n'est pas oubliée à l'étranger. Je rappelle que pendant les manifestations contre la guerre en Irak, à Barcelone et à Madrid, elle a été chantée par des Espagnols. Or, les Espagnols n'ont pas forcément un sentiment francophile. Donc, la Marseillaise est un chant pour eux révolutionnaire, un chant national, peut-être français, mais aussi révolutionnaire. C'est une monarchie espagnole. Quand on chante la Marseillaise, c'est une valeur. Ça a été chanté par les manifestants américains qui, contrairement à ce que l'on a dit, étaient très nombreux contre cette guerre. À San Francisco, la Marseillaise a été chantée. Et donc, il y a toujours cette valeur de force populaire.
Merci en tout cas, Frédéric Dufour, de nous avoir raconté cette longue histoire de la Marseillaise, hein, qui durera longtemps, j'espère. Et une histoire que l'on retrouve donc dans un petit livre publié aux éditions du Félin et que vous avez signé, donc Frédéric Dufour, et qui s'appelle tout simplement La Marseillaise. À lire également le chapitre de Michel Vauvel dans Les lieux de mémoire, publié chez Gallimard, un chapitre intitulé La Marseillaise, la guerre ou la paix. Vous avez pu entendre un extrait du film de Jean Renoir, La Marseillaise, ainsi qu'un extrait de La Révolution française, Les années-lumière, de Robert-Henri Co. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Clotilde Thomas, documentation Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser, Pauline Bougon et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, à la veille de la grille d'été de France Inter, un sujet de circonstance, la légende de Saint-Tropez. Mais tout de suite, à 14h30, très précise sur France Inter, c'est tous les jours Saint-Tropez avec Chris. Bonjour.